demande le peuple.
Du pain et tout de suite.
Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission du Fil de l'Histoire. Ce soir, on parle de l'histoire du populisme. Le populisme, une histoire de gauche ou de droite? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre ce soir.
Populist, is that an insult or a compliment?
Je vais vous parler du populisme. Comme disait Paul Valéry, les mots prennent du volume à mesure qu'ils perdent leur sens.
C'est irresponsable, c'est du populisme le plus... basique.
Populisme.
On donne à l'opinion ce qu'elle veut entendre. C'est du populisme BCBG.
Le populisme, c'est un peu comme le air fryer. Personne ne sait si c'est une bonne ou une mauvaise idée.
Le populisme, un terme déjà ancien qui depuis quelques années est revenu en force dans le débat politique au niveau national et international, avec pour toile de fond la mise en cause un peu partout dans le monde de la démocratie. Parfois revendiquée comme valeur ou comme programme, le populisme a le plus souvent un sens péjoratif utilisé pour jeter l'anathème sur telle ou telle théorie ou tel politicien, politicienne, qui peut d'ailleurs, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, renvoyer l'anathème à l'expéditeur « Moi, populiste, mais non, c'est toi ». Le mot ne relèverait-il que d'un jugement moral? Qu'est-ce qu'on entend par populisme? Par ce terme, on désignerait une certaine manière de faire de la politique en exaltant le peuple contre les élites, le bon peuple contre les élites corrompues. Des mauvaises langues diront qu'elle consiste surtout à flatter le peuple en lui mentant, en le maintenant dans son ignorance au lieu de l'élever. Autant le dire tout de suite, le populisme est un terme flou, voire fourre-tout, mais que nous allons tenter ici de définir et surtout de lui donner tout son sens en retraçant l'histoire du populisme en France depuis la fin du 19e siècle. Grâce à vous, Marc Lazard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur émérite à Sciences Po Paris et l'auteur d'un livre paru en 2025 chez Gallimard, « Pour l'amour du peuple, histoire du populisme en France, 19e-21e siècle » dans la collection NRF Essai.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Avant d'être un gros mot ou une insulte, le populisme a été, dans la seconde moitié du 19e siècle, un programme politique parfaitement assumé, tout sauf cynique, généreux au contraire, entièrement dédié au peuple, le populus, celui qui a donné au mot sa racine. Sans doute un vœu pieux, naïf, pavé comme l'enfer de bonnes intentions. Les premiers populistes autoproclamés sont en Russie les Narodniki, Narod signifiant « peuple » en russe. Un mouvement né au 19e siècle. Partisans d'un communisme agraire, des centaines de jeunes intellectuels habillés en paysans quittent la ville et sillonnent les campagnes pour inciter les moujiks à se soulever contre le régime du tsar. Mais l'opération tourne court. Il arrive même que les pauvres Narodniki soient dénoncés à la police par les paysans, ceux dont ils se prétendaient pourtant les guides. Fin des Narodniki. À peu près à la même époque, un autre mouvement se revendiquant populiste naît dans le sud des États-Unis et la région des Grandes Plaines. Le People's Party, le Parti du Peuple, appelé aussi Parti Populiste, un mouvement situé à gauche qui prétend défendre les intérêts des petits paysans contre les grands monopoles et les banques de Wall Street. Éphémère, lui aussi, le People's Party sera vite absorbé par les démocrates américains. À quel moment et par quel méandre le mot « populisme », de mouvement politique qui revendique son action en faveur du peuple, s'est mis à désigner tout autre chose? Comment définir le populisme qui, d'après vous, est né en France, Marc Lazard?
En France, le mot populisme surgit dans le domaine littéraire en 1929. Il y a un manifeste pour un roman populiste, c'est-à-dire un roman dans lequel le peuple serait l'acteur principal, en rupture avec tous ces personnages issus de la noblesse ou de la bourgeoisie. Et le premier prix, d'ailleurs, sera décerné en 1931 à un auteur, Eugène Darby, pour un livre qui s'appelle « L'Hôtel du Nord », qui deviendra un film fameux par la suite. Et, par exemple, Jules Romain, « Les hommes de bonne volonté », a obtenu le prix populiste. Et figurez-vous, même Jean-Paul Sartre, plus tard, en 1940. Mais en politique, le mot « populiste » va apparaître dans les années 50 avec le poujadisme. Moi, je donne trois acceptions de ce mot. Le premier, c'est le fait que le populisme reposerait sur une forme d'idéologie. Alors une idéologie très plastique, très labile, et qui consiste à opposer le peuple, qui serait par nature bon, vertueux, possédant la vérité, contre une petite élite corrompue, dominant le peuple, complotant contre le peuple. Ça, c'est une première définition. Puis il y a une deuxième définition, et vous l'avez suggéré aussi dans votre introduction, c'est le populisme comme une forme de stratégie et de style développée par des acteurs politiques, des partis, des mouvements, des chefs, des leaders, et qui repose sur la simplicité, le schématisme, la démagogie. C'est au cœur de la politique, vous me direz. Mais avec un autre élément, c'est qu'au lieu de l'adversaire avec lequel ils sont en compétition, ils désignent des ennemis, c'est-à-dire qu'il faut éliminer. Dieu merci, pas toujours physiquement, mais en tout cas symboliquement. Et puis la troisième expression du populisme, ce serait l'idée que ça correspond à une sorte de soulèvement venu d'une partie de la population, un soulèvement de type culturel contre la culture des dominants. Si on prend ces trois exceptions, eh bien on peut essayer de retracer effectivement ce parcours du populisme qui, en France, surgit de manière assez récurrente.
Est-ce que ce populisme serait né en France pendant la Révolution ?
Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'au moment de la Révolution surgit une tension très claire et qui va parcourir le 19e, le 20e et le 21e siècle. Tension entre d'un côté l'expression de la souveraineté populaire. Le peuple va s'emparer de la Bastille, le peuple veut prendre le pouvoir, le peuple veut faire de la politique, le peuple veut créer quelque chose d'autre face à l'ancien régime. Et de l'autre côté, la suspicion immédiate par rapport à la représentation, le fait qu'on élit des gens qui sont donc l'expression de la souveraineté populaire, mais puisqu'ils ont été élus, sont immédiatement suspectés d'une forme de trahison possible. Et cette tension parcourt la France. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle est tout le temps présente, mais dans certaines conditions, effectivement, elle peut ressurgir et permettre le déploiement de ces mouvements populistes.
Ce sont des moments de crise, et crise économique, politique, sociale.
Il y a trois types de causes qui surgissent systématiquement. Première cause, c'est une cause politique, c'est des moments de défiance politique profonde. Deuxième causalité, c'est des situations de détresse économique, de détresse sociale provoquées par justement des crises économiques avec le cortège de chômage, de taxation fiscale sur certaines catégories. On va voir que, effectivement, c'est un terreau fertile pour le populisme. Et la troisième causalité, c'est des causalités d'ordre culturel identitaire. Des moments où les Français s'interrogent sur qu'est-ce que c'est qu'être français ? Qu'est-ce que c'est que la France ? La France n'est-elle pas dans un moment de déclin ? Ces trois causalités, on les retrouve à l'origine de tout mouvement populiste.
Marc Lazare, vous parliez de la prise de la Bastille le 14 juillet 89, mais que c'est le peuple qui a pris la Bastille. Mais de quel peuple s'agit-il ? Vous dites que, en réalité, ce ne sont que 700 personnes qui ont pris la Bastille. Ce sont des hommes, évidemment, essentiellement, parisiens, des artisans, des salariés du Faubourg Saint-Antoine. Qu'est-ce que c'est que le peuple pendant la Révolution française ?
Alors, le peuple, évidemment, ça va être ce grand soulèvement qui va se produire. La prise de la Bastille est un événement fondateur, mais ce n'est pas le seul. Évidemment, par la suite, on va avoir des grands mouvements dans les villes, et en particulier à Paris, et puis le vaste mouvement paysan. Et de ce point de vue-là, c'est ce peuple qui surgit sur la scène. Et puis, c'est le peuple qu'on va évoquer à partir de 1792 pour défendre la République, qui est en danger. Donc, ce peuple, effectivement, il est très présent dès la Révolution française, et il est très présent dans les formes de notre démocratie.
Alors vous citez dans votre livre un extrait d'un discours de Robespierre de 1791, un texte extraordinaire. « Partout où le peuple n'exerce pas son autorité et ne manifeste pas sa volonté par lui-même, mais par ses représentants, si le corps représentatif n'est pas pur et presque identifié avec le peuple, la liberté est anéantie. » Comment Robespierre peut savoir ce que veut le peuple ? Est-ce qu'il est forcément univoque, ce peuple ?
Alors, justement, c'est toute la tension dont je parlais tout à l'heure. Il est dans la tradition rousseauiste, il est dans cette idée que la représentation elle-même peut être suspecte à peine la représentation a été exercée, c'est-à-dire à peine on a élu ces personnes. Évidemment, Robespierre peut prétendre incarner, lui, la pureté du peuple. Et donc, c'est quelque chose qui va parcourir, là aussi, l'histoire de la démocratie en France par la suite. C'est pour ça que j'ai choisi cette citation, parce qu'elle me semble emblématique de ce qui, à mon sens, est une particularité française. Marcel Gauchet a une très belle expression. Il dit « plus il y a un péril oligarchique, plus il y a un péril populiste ». Qu'est-ce qu'il veut dire ? Eh bien, c'est que dans nos démocraties contemporaines, alors postérieures à la période de la Révolution française, celles qui véritablement vont s'institutionnaliser pour aller vite au XIXe siècle, il y a cette tendance à avoir d'un côté des représentants qui dépendent de la souveraineté populaire, mais que si jamais ces représentants ont tendance à se refermer sur eux-mêmes, à ne plus être à l'écoute des attentes du peuple, eh bien, s'ouvre la fenêtre d'opportunité pour le développement de mouvements populistes, surtout dans les périodes de cause qu'on a identifiées tout à l'heure.
En janvier 1886, le général Boulanger est comblé, du moins pour l'instant. Celui qui s'est illustré à maintes reprises par sa vaillance sur le champ de bataille, qui est déjà le plus jeune général de France, vient à 49 ans d'être nommé ministre de la guerre. Cela fait plusieurs années que ce militaire ambitieux, faisant jouer ses relations, se démène par tous les moyens pour entrer dans un gouvernement de la jeune Troisième République. Une des premières mesures du nouveau ministre est de créer son propre bureau de presse, qui s'occupera de fournir aux journaux toutes les informations le concernant. Une agence de com avant la lettre. Très populaire auprès des militaires, mais aussi de plus en plus auprès de tous les Français, le général Boulanger fait un tabac le 14 juillet 1886 à la revue militaire organisée à Longchamp pour la fête nationale. Dans une mise en scène très calculée, le ministre de la guerre fait son apparition, caracolant sur un magnifique cheval noir. En grand uniforme, licorne à plumes et culotte blanche, il a vraiment belle allure. Et quand il s'immobilise avec sa monture devant la tribune officielle, la foule est en délire. Quelle humiliation, en revanche, pour le président de la République. Car les hurrahs ne sont pas pour le pauvre Jules Grévy, 79 ans, mais pour le fringant général aux yeux bleus et à la barbe blonde.
Général, Monsieur le Président de la République m'a chargé de vous transmettre ses compliments. Votre revue est un triomphe. En ce qui me concerne, permettez-moi de souhaiter qu'elle soit un triomphe pour la République et rien que pour la République.
C'est mon vœu le plus cher. Je vous prie de transmettre mes remerciements, Monsieur le Président.
Aux affaires étrangères, Flourens nous met dans le panneau. Oh, oh, à l'intérieur, Falière traite les Français en prusco. Oh, oh, c'est Boulange, 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 c'est Boulange qu'il nous faut.
Au fil des mois et des années, le général Boulanger est de plus en plus populaire. Même si la presse satirique et les caricaturistes se délectent du côté fat et fanfaron du personnage, il a aussi de quoi inquiéter. Dans ses tournées partout en France, il multiplie les discours bellicistes et dangereux où il appelle à la guerre contre l'Allemagne afin de récupérer l'Alsace et la Lorraine. Celui qu'on appelle maintenant le général Revanche est ovationné au refrain de ces « boulangers qu'il nous faut ». Le gouvernement, qui redoute un coup d'État, à la manière de Louis-Napoléon Bonaparte, décide d'éloigner Boulanger en l'envoyant loin de Paris, à Clermont-Ferrand. Le 8 juillet 1887, c'est l'émeute. 10 000 aficionados convergent à la gare de Lyon pour empêcher son train de partir. Des hommes se couchent même sur les rails. Le train finira par partir avec plus de 3 heures de retard. Boulanger reste un an à Clermont-Ferrand avant de revenir à Paris, où il reprend ses intrigues pour accéder au pouvoir. En janvier 1889, il se présente à Paris aux élections législatives qu'il gagne haut la main. Le 27 janvier, il fête sa victoire dans un restaurant près de la place de la Madeleine, tandis qu'environ 10 000 partisans s'amassent sur la place. Pour son soutien Paul Déroulède, c'est le moment d'agir. Il pousse Boulanger à marcher le soir même sur l'Élysée. Mais le général refuse, affirmant qu'il préfère la voie des urnes. Une légende naît alors, selon laquelle la foule ce soir-là aurait appelé Boulanger à prendre le pouvoir, mais que le général aurait, je cite, « manqué le coche ». En réalité, le gouvernement était en alerte, l'Élysée bien gardée. Et dans la foule devant la Madeleine, il n'y a pas eu d'appel à un coup d'État. La Troisième République a résisté au boulangisme.
Ah, le voilà.
Malgré son triomphe, il a l'air soucieux.
Il y a de quoi à cause de son triomphe.
Que lui manque-t-il?
La volonté de répondre à l'appel de ses amis et de prendre le pouvoir.
Marc Lazare, le phénomène de ce qu'on appelle le boulangisme a duré très peu de temps, environ 5 ans, depuis sa nomination comme ministre jusqu'à sa mort par suicide en 1891, alors qu'il est exilé en Belgique. Mais a-t-il été vraiment dangereux pour la République ?
En tout cas, il a été considéré comme dangereux par ceux qui étaient au pouvoir. C'était un homme qui devenait extraordinairement populaire. Il a été exilé, donc entre guillemets exilé, envoyé à Clermont-Ferrand. Il se présente aux élections. Et effectivement, il y a aussi son mot d'ordre. Et son mot d'ordre, c'est dissolution, révision constituante. Donc il y a un programme politique en fait très peu précis. Le grand historien du boulangisme l'a très bien montré, Bertrand Joly, dans son travail. Mais on voit que ce qui est intéressant dans le cas du boulangisme, c'est que ça surgit encore dans un contexte bien précis. Un contexte d'interrogation sur le devenir de la République, qui vient à peine de commencer, de critique des élus et des parlementaires qui sont accusés de corruption. Et il y a des scandales, il y a ce climat aussi social, c'est une situation de début de récession économique, donc un certain nombre de gens sont insatisfaits, d'interrogation culturelle, c'est à la suite de la défaite française par rapport à la Prusse, et général revanche, c'est celui qui permettrait peut-être justement de reconquérir l'Alsace et la Lorraine, et donc oui, il a provoqué, il a suscité une inquiétude pour la République, et vous l'avez rappelé, non seulement qu'il s'est défendu, mais qu'il a attaqué, et qu'il a condamné le général Boulanger et ses troupes. Pour moi, c'est l'expérience fondatrice du populisme en France. D'ailleurs, la notion de boulangiste va aller au-delà du général Boulanger lui-même.
C'est étonnant parce que le général Boulanger se déclarait républicain. En même temps, il a l'air d'hésiter. Il veut prendre le pouvoir, mais en même temps, il veut le prendre par les urnes. On sent une hésitation chez lui.
Alors, c'est important ce que vous dites. Il est républicain. Et quand il est critiqué à cet égard, il s'en défend en disant qu'il est républicain, que la France et le peuple français est républicain, même s'il est soutenu par, justement, un conglomérat de forces, des bonapartistes, des monarchistes, des républicains de gauche, de droite. Ce qui est une des caractéristiques du populisme, c'est cette capacité de mettre ensemble des sensibilités différentes derrière un homme qui apparaît comme un homme providentiel. Vous dites, il hésite. Et ça, c'est le problème, et j'allais dire, c'est le paradoxe de Boulanger. Il est à la fois, on l'a dit, très populaire, adoré, il y a des chansons, il est présent partout. Il a étudié lui-même, et ses proches ont étudié les campagnes présidentielles américaines, ça c'est absolument fascinant. Ils ont vu comment se faisaient les premières grandes campagnes aux États-Unis, donc ils importent un peu cette méthode.
Oui, c'est un communicant.
C'est un communicant, absolument. Et c'est un communicant brillant, c'est un communicant à succès, ce qui d'ailleurs inquiète la République, parce que c'est une République qui se veut parlementaire, qui a la hantise de quoi ? De Napoléon Ier et de Napoléon III. Donc l'idée qu'un homme comme cela puisse incarner le peuple, c'est pas possible. La République doit incarner le peuple dans sa, dans sa globalité et pas à travers une personne. Et la force de Boulanger, c'est lui. Et la faiblesse de Boulanger, c'est lui.
Et c'est-à-dire, c'est qu'un homme, finalement.
C'est qu'un homme, et c'est un homme aux idées politiques quand même assez confuses. Il y a quand même cette idée qui fait partie, justement, du populisme, qu'il y a un peuple uni contre une minorité. Alors, quelle est cette minorité ? Chez lui, c'est surtout la minorité de ses parlementaires. Et donc, il y a un aspect anti-parlementaire, là aussi, ambivalent, contradictoire, qu'on retrouvera dans d'autres expériences du populisme, parce que c'est un anti-parlementarisme qui n'est pas tellement, cette fois-ci, chez Boulanger, contre l'institution du Parlement que contre les parlementaires. C'est une distinction importante. Mais oui, il y a une forme de confusion chez Boulanger, incontestablement.
Est-ce que le boulangisme est de gauche ou de droite ?
Il est un peu les deux à la fois, et c'est ça qui est étonnant, et c'est en ce sens-là aussi qu'il est peut-être, de ce point de vue-là, ce que j'appelle, moi, un populisme intégral, parce qu'il est difficile à classer. Il surfe, parce que de temps en temps, il se rapproche des monarchistes, de temps en temps, il se rapproche plutôt des républicains de gauche. Et c'est ce qui démontre justement la faiblesse politique du général Boulanger. Ce leader, ce chef, comme on disait à l'époque, ce chef est à la fois puissant et il veut démontrer sa puissance, sa virilité, vous l'avez dit. C'est un général, il porte beau.
Un peu ridicule.
Alors, vous dites ridicule, oui, mais dans le contexte de l'époque, ça plaît, parce que nous sommes dans ce contexte où la France a perdu la guerre. Et donc, l'identification à un général est tout à fait importante pour une grande majorité de Français. Mais voilà, il surfe sur différentes sensibilités politiques pour rassembler un peuple qui est supposé uni, comme s'il n'y avait pas de division au sein du peuple. Parce que c'est ça, la distinction fondamentale. Pour les républicains, bien sûr, on fait appel à un peuple uni, notamment lorsqu'il y a une alerte étrangère, mais on reconnaît qu'il y a des sensibilités différentes dans le peuple. Pour le boulangisme, non, il y a un peuple un peuple unis contre une minorité.
Le boulangisme, à vos yeux, va survivre à Boulanger.
Oui, pour une bonne raison, c'est que justement, on va retrouver plus tard, au moment du retour du général de Gaulle en 1958, quelque chose qui évoque un peu le boulangisme. Et d'ailleurs, dans les critiques contre le retour du général de Gaulle, venues surtout de la gauche, il y avait cette hantise du boulangisme. Boulanger a donné un mot, un concept, une notion, un néologisme, le boulangisme.
Inter.
Après la Première Guerre mondiale, un nouveau populisme émerge avec les ligues nationalistes.
La manifestation du 6 février de réprobation patriote qui a eu lieu au Place de la Concorde avait démarré dans une atmosphère de tension extrême, des perturbateurs s'y étant infiltrés, ce qui provoqua l'arrivée en masse de la cavalerie. Des actes d'une violence inouïe ont déclenché l'arrivée des fusils mitrailleurs. C'est tard dans la nuit que cette manifestation fut maîtrisée. On déplore 12 morts et des centaines de blessés.
Le 6 février 1934, la grande manifestation parisienne qui a tourné à l'émeute est un des moments les plus tragiques de l'histoire de France au XXe siècle. Ce jour-là, les ligues d'extrême droite ont-elles failli renverser la Troisième République ? Depuis la fin de la guerre 14-18 et surtout avec la crise économique et politique au début des années 30, on assiste à la montée en puissance de mouvements, les ligues, qui ne se considèrent pas comme des partis, mais prétendent exprimer un certain mécontentement populaire. Leur point commun, leur haine du parlementarisme. Les principales ligues qui vont s'illustrer le 6 février 34 sont l'Action française, mouvement nationaliste, royaliste et antisémite, dirigé par Charles Maurras et dont les camelots du roi forment le service d'ordre. Les Croix de Feu, ligue d'anciens combattants fondée par le colonel de la Roque, qui se transformeront en PSF, Parti social français. Les Jeunesses patriotes, JP, créées par l'homme d'affaires et député Pierre Tétinger. Solidarité française, ligue fondée par l'industriel parfumeur François Coty.
Au début de l'année 1934, la tension est très vive quand on apprend la mort d'Alexandre Stavisky, un affairiste d'origine juive ukrainienne, compromis dans plusieurs escroqueries et soupçonné d'être protégé par des députés radicaux. Suicide ou assassinat déguisé? L'extrême droite se saisit de cette affaire qui réunit tous les thèmes dont elle se nourrit. Antisémitisme, xénophobie, anti-parlementarisme et haine de la République. Tout le mois de janvier, appelé par l'Action française, des manifestations se succèdent au cri de « À bas les voleurs ». Mais début février, c'est la nouvelle de la révocation du préfet de police Jean Chiappe, réputé pour sa complaisance envers les ligues d'extrême droite, qui met le feu aux poudres. Plusieurs manifestations sont prévues le 6 février. Le premier défilé est celui d'une organisation d'anciens combattants proches du Parti communiste, l'ARAC, qui proteste contre les scandales financiers, mais dont l'objectif n'est pas le Palais Bourbon. Ses adhérents vont remonter les Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe et non les descendre vers la Concorde. Le colonel de l'ARAC n'a pas l'intention, lui non plus, de marcher sur la Chambre des députés. D'ailleurs, dès les premiers coups de feu, il ordonnera à ses croix de feu de se disperser. En réalité, les émeutiers qui vont s'opposer aux forces de l'ordre appartiennent à l'Action française, aux Jeunesses patriotes et à Solidarité française. Le 6 février, les Ligueurs se rassemblent place de la Concorde. Leur but, s'emparer de la Chambre des députés de l'autre côté de la Seine. Commencés en fin d'après-midi, les heurts avec la police, très violents, se poursuivent tard dans la nuit. Les manifestants, de plus en plus nombreux, environ une dizaine de milliers, réussissent à progresser sur le pont de la Concorde. Très déterminés, ils utilisent des armes à feu, toutes sortes de projectiles, et avec des lames de rasoir, ils tailladent les jambes des chevaux. D'abord débordés, les forces de l'ordre, grâce à des renforts, réussissent à protéger le palais Bourbon et à mettre fin à l'émeute vers 2h30 du matin. Mais le bilan est lourd. 15 morts, 14 civils et un policier, et près de 1500 blessés. Les conséquences politiques également, la République, si elle n'a pas été renversée par les Ligues, sort fragilisée de l'épreuve. Le 12 février, une manifestation contre le fascisme est organisée à Paris. Léon Blum y prend la parole.
Les citoyens, Paris, rassemblés dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qui ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. Vive la liberté. Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier.
Contre le fascisme et le royalisme, les forces de gauche décideront de s'unir en vue des élections législatives de 1936, une union qui annonce la formation du Front populaire. Marc Lazare, les Ligues ont-elles failli renverser la Troisième République le 6 février 1934 ?
Une partie d'entre elles, certainement, vous venez de le dire, a tenté de s'emparer de la Chambre des députés. Mais vous l'avez rappelé, c'est très important, les croix de feu du colonel de l'ARAC ne se sont pas mêlées à cela. En tout cas, ça a été interprété comme cela. Ça a été interprété par une partie des Républicains et surtout par la gauche, qui a vu cela comme une tentative de coup d'État fasciste.
On est dans un contexte quand même compliqué avec Mussolini et Hitler.
Alors, Mussolini 1922, Hitler en 1933, effectivement, depuis quelques années, des tensions très fortes, y compris dans la rue, entre un certain nombre de ces ligues et les forces de gauche, notamment les forces du Parti communiste, mais aussi de la SFIO, qui avait des groupes d'autodéfense, donc il y a de la violence dans la rue. Alors attention, ces ligues, ne les amalgamons pas toutes. Par exemple, je le dis très clairement, l'Action française, pour moi, je ne l'intègre pas comme un mouvement populiste.
Oui, parce que c'est plutôt un mouvement royaliste.
D'une part, c'est un mouvement royaliste et quand on voit ce qu'écrit Maurras, Maurras n'a aucune envie de confier le pouvoir au peuple. C'est très clair. Je considère que dans ces ligues, j'en prends trois. Celui des Jeunesses patriotes de Pierre Tétinger, vous l'avez rappelé, où il y a effectivement une dimension d'appel au peuple avec une critique très dure du Parlement et des parlementaires. Le deuxième, c'est le Comité de défense paysanne d'Henri Dorgère, qui est un mouvement très important.
Oui, on en parle rarement.
On en parle rarement, forme qui a été très bien étudiée, sur lequel effectivement je m'appuie dans ce livre pour expliquer ce qu'il a été. Le comité de défense paysanne voulait défendre le peuple paysan. Dorgère se référait aux paysans comme expression du peuple français dans son essence même. C'est-à-dire que le paysan, pour Dorgère, porte véritablement l'essence de la France, l'identité de la France, par ses capacités, par son intelligence, par sa réalité, par son contact avec la terre.
Et comment ce mouvement s'est-il exprimé dans les années 30?
Alors, il s'exprime par, d'abord, des contestations et des révoltes contre le fisc. Ça, c'est un élément très important. Au départ, c'est des révoltes fiscales, donc parfois avec des violences. Et puis aussi, avec des défilés, notamment organisés avec des chemises vertes. Et donc, ça évoquait pour la gauche le fascisme, quand bien même Henri Dorgère, qui a regardé à un moment donné du côté de Mussolini, s'en est démarqué assez rapidement. C'est pour ça que tout le débat sur y a-t-il eu un fascisme français est particulièrement compliqué. Mais en tout cas, il y avait cette expression d'une forme de populisme, un populisme paysan, avec un homme d'ailleurs, Henri Dorgère, qui, du point de vue de son expression, est quelqu'un qui est un véritable militant, qui voyage dans des conditions difficiles, qui est adulé par ses soutiens. Le troisième plus complexe, c'est les Croix de Feu, qui ensuite vont devenir, effectivement, après leur dissolution, le Parti Social Français, qui va devenir un grand parti de masse. Et les Croix de Feu, à la fois, il y a une critique du Parlement, mais attention, le colonel de Larocque n'a jamais voulu abolir le Parlement. C'est un élément très important, il veut avoir un Parlement rationalisé, un pouvoir exécutif plus fort, et il a une forme d'ambivalence par rapport au peuple, c'est-à-dire qu'à la fois, il fait référence au peuple de France, il conteste les partis politiques, et en même temps, en quelque sorte, c'est les élites qui doivent diriger le peuple. Albert Kechichian, qui a consacré son livre aux Croix de Feu, dit qu'au départ, c'est une aristocratie de la bravoure. Très belle expression.
C'est aussi le souvenir de la Première Guerre mondiale,
exactement.
Les anciens combattants.
Mais en même temps, justement, le peuple chez les Croix de Feu, comme d'ailleurs pour les autres ligues, eh ben c'est ce peuple qui a existé au moment de la Première Guerre. C'est la fraternité du front, la fraternité des tranchées. Ça, c'est un élément très important. Mais les Croix de Feu ont une forme d'ambivalence dans leur populisme. Un populisme un peu, j'allais dire, conservateur. C'est-à-dire, oui, c'est une critique d'un certain type de forme que prend la démocratie, notamment de ses parlementaires. C'est un certain type de régime avec un pouvoir exécutif fort que prône le colonel de Larocque. Et en même temps, ce peuple, c'est un peuple qui doit être guidé, qui doit être guidé par justement ceux qui ont la conscience pour le faire.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un nouveau populisme émerge dans les années 50, le poujadisme.
Nous proposons une réforme fiscale qui fasse percevoir l'impôt le plus près possible de la source pour éviter le maximum de fraude. Parce que vous pouvez être certain que si un ministre a pu dire qu'il y a eu en 1953 800 milliards de fraude, eh bien ce ne sont pas les petits commerçants ou les petits artisans de France qui en ont profité.
Ce qu'on appelle le poujadisme a un acte de naissance. Le 22 juillet 1953 à Saint-Céré, dans le Lot, Pierre Poujade, modeste commerçant, il tient une librairie papeterie, et élu au conseil municipal, prend le frais devant chez lui le soir après le travail, lorsqu'un certain Fréjac, forgeron carrossier et conseiller municipal comme lui, vient le prévenir de l'arrivée le lendemain d'un contrôleur du fisc chez 30 commerçants et artisans de la ville. Aussitôt, ceux-ci se réunissent et décident de créer un comité de résistance. Résistance. 8 ans après la libération, le mot n'est pas choisi au hasard par ces hommes dont certains, comme Poujade, revendiquent un passé de résistant. Le comité se donne pour chef Pierre Poujade, justement. Il est jeune, 33 ans, entreprenant, d'une éloquence directe et souvent débraillée, comme l'écrit Le Monde de l'époque, qui a l'art de faire vibrer son auditoire. Le lendemain, face à la conjuration, les contrôleurs, surnommés sans rire la Gestapo du fisc, baissent les armes et renoncent à leur mission. Victoire. L'épisode, avec ses discussions animées sous les platanes, paraît sortir d'un film de Pagnol ou de Jacques Tati. 1953, c'est d'ailleurs l'année de la sortie des vacances de Monsieur Hulot. En réalité, ce qui vient de naître à Saint-Céré est un véritable mouvement antifiscal qui s'étend rapidement aux départements voisins et qui va prendre bientôt une dimension politique. à la fin de l'année 1953, la création de l'UDCA, Union de défense des commerçants et artisans, donne le coup d'envoi de ce qu'on va appeler le poujadisme, dressant une certaine France profonde des petits contre les gros et, je cite, les pourris parisiens. Les petits commerçants en colère contre le fisc, mais aussi contre le développement des grandes surfaces, sont bientôt rejoints partout en France, à la campagne et en ville, par ceux qui se sentent marginalisés par la croissance et la modernisation. Ensemble, derrière Pierre Poujade, ils vont crier contre le « système » et dénoncer les élites. En 1956, consécration, le poujadisme s'invite aux élections législatives. À la surprise générale, il emporte 13% des suffrages et envoie 52 députés à l'Assemblée, parmi lesquels un inconnu de 27 ans, un certain Jean-Marie Le Pen, candidat en décembre 1955.
Le mouvement Poujade, dont je suis aujourd'hui le porte-parole, ne vous fait pas de promesses mirobolantes. Il vous promet seulement de lutter. Pour réunir les États généraux, seul moyen de donner sincèrement la parole au peuple. Par l'union, nous pouvons chasser tous les dirigeants corrompus et incapables. Dans la fraternité, nous reconstruirons ensemble une France libre, forte et jeune.
Le Pen, qui ne tardera pas à se brouiller avec Poujade. Au nom du bon peuple, donc, le poujadisme, en se politisant, prend une orientation de plus en plus nationaliste, pro-Algérie française, xénophobe, raciste, antisémite, notamment contre Pierre Mendès France, et anti-intellectuel. Par exemple, lors d'un discours en 1955, Pierre Poujade déclare, dans le style fleuri qui est le sien, « Nous sommes gouvernés par une bande d'apatrides et de pédérastes, des pourris, des gens sans foutre, des parasites, des gavés qui, je cite toujours, ne peuvent pas se rendre compte de l'état d'esprit du peuple qui travaille. » Marc Lazare, le magazine L'Express, à l'époque, avait publié une caricature de Poujade en Poujadolphe. Le poujadisme, c'est quoi? Du fascisme? Du populisme?
Non, je dirais pas que c'est du fascisme. Il n'y a pas la revendication d'un État fort. Il n'y a pas un nationalisme belliciste. Des formes de violence, mais qui n'ont rien à voir avec les violences qui ont amené Mussolini au pouvoir en 1922 en Italie. Donc, évitons ces comparaisons, même si... À l'époque, une partie de la gauche a cru voir dans le poujadisme du fascisme. Attention, quand je dis une partie de la gauche, n'oublions pas qu'au départ, le Parti communiste français, premier parti politique de France sous la 4e République, a eu les yeux de chimène pour le poujadisme et a essayé justement de s'infiltrer, de soutenir le poujadisme jusqu'à ce que Pierre Poujade, mette de côté les communistes. Pierre Poujade lui-même, vous l'avez rappelé, qui avait été dans la résistance, mais qui avait été aussi membre des jeunesses d'Oriotis, du Parti populaire français, une des formations des ligues de l'entre-deux-guerres dont nous avons parlé la dernière fois. Donc, c'est le plus bel exemple peut-être d'un populisme intégral. On y retrouve tout, un chef, vous l'avez dit, un chef qui est en rupture complète avec les mœurs politiques et les comportements politiques. Ce langage d'une vulgarité, d'une violence terrible avec des formes d'antisémitisme, d'anti-intellectualisme.
Il expliquait que... Homophobie.
Absolument. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que le peuple, justement, a raison et il est bien plus compétent que les experts, que les savants. On dirait aujourd'hui, j'aime pas beaucoup ce mot, mais les sachants. Donc, c'est très puissant, mais aussi dans son langage gestuel, dans son comportement. C'est un homme qui dénoue sa cravate, qui très souvent tombe la veste et parle en chemise. Alors aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est assez fréquent. Mais à l'époque, dans les années 50, non, les responsables politiques n'osent pas se faire ça. Je parlais du Parti communiste français. Le grand secrétaire général du Parti communiste français, Maurice Thorez, faisait très attention à être correctement habillé. Donc voilà, il y a cet aspect du populisme et cette opposition, vous l'avez dit, des petits contre les gros. Les sans-grades, dit-il. Et il a beaucoup d'expressions comme ça pour valoriser le peuple qui est, selon lui, stigmatisé, humilié en permanence. C'est un élément important, parce qu'au départ, c'est des commerçants et des artisans, mais vous l'avez dit, ils se politisent. Et c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une révolte fiscale et qui, dans un contexte particulier, oui, de crise politique, de gouvernement qui se succède...
C'est la 4e République.
République. À partir de 1954, c'est la guerre d'Algérie, vous l'avez évoqué, de difficultés économiques pour cette catégorie de la population, parce que le pays est en pleine modernisation. Et cette interrogation, justement, de nouveau, on retrouve toujours les mêmes ingrédients, cette interrogation culturelle avec la guerre d'Algérie et puis le processus de décolonisation. Nous sommes dans les années 50, c'est-à-dire après la défaite de Dien Bien. Fu, après la perte de l'Indochine. Donc, il y a une forme d'interrogation sur qu'est-ce que va devenir la France, voilà. Qu'est-ce que c'est que la France? Et puis, c'est aussi le développement, à l'époque, les premiers développements de l'Europe. En 1957, donc un tout petit peu plus tard, ça va être le traité de Rome. Mais c'était déjà la communauté européenne du charbon et de l'acier.
C'est étonnant ce rapport à la résistance. Donc, vous l'avez dit, ce mélange à la fois de résistance et puis il y a aussi des compagnons de Poujade qui sont des anciens de l'extrême droite et du pétainisme. Et même lui-même, vous l'avez dit, il est les deux.
Oui, et c'est très intéressant dans toutes ces expériences de populisme, pour le boulangisme, pour les ligues de l'entre-deux-guerres, pour le poujadisme, c'est la référence à l'histoire. Et il y en a deux. Vous avez évoqué la résistance, vous avez évoqué ce mot de Gestapo du contrôle du fiscal. Mais il y a un autre mot, enfin deux mots très employés, y compris dans le discours du jeune Jean-Marie Le Pen que vous avez passé. Les états généraux.
Oui,
les états
dire,
généraux.
Oui.
Et ça, pour Pierre Poujade, c'était très important. D'ailleurs, les députés poujadistes, inexpérimentés, très rapidement, le groupe va se disloquer. Il ne s'est pas présenté aux élections législatives de janvier 1950. Et donc, les députés sont laissés à l'abandon. Ces députés ont essayé de faire passer l'idée d'une convocation des États généraux. Donc, il y a l'idée aussi de la Révolution française. Et c'est ça qui est fascinant en France, c'est que le poujadisme est dans l'immédiateté. C'est l'idée tout peut être réglé très rapidement. Et en même temps, il y a ce poids de l'histoire, et je vais employer un autre mot, cet héritage de l'histoire, mais aussi le choix de l'histoire par les poujadistes. Ces choix de l'histoire, ces mots d'états généraux, et ben ça imprègne justement les populations qui se reconnaissent dans Poujade.
Le poujadisme, Marc Lazare, va disparaître assez vite. Comment on explique son déclin brutal ?
Trois choses. D'une part, une forme d'essoufflement du mouvement lui-même, et notamment de ses contestations fiscales. L'impuissance de ses députés, leur incapacité à véritablement construire quelque chose au Parlement. Il faut dire qu'on va employer une expression d'aujourd'hui. Il y avait une forme de cordon sanitaire contre les députés poujadistes. Et puis la troisième chose, c'est 1958. C'est la fin de la 4ème République et le retour du général de Gaulle au pouvoir. Et ça, évidemment, ça va étouffer en quelque sorte la charge protestataire du populisme à travers la figure du général de Gaulle.
Dans le prochain épisode, nous évoquerons un autre type de populisme, ce que vous appelez le populisme intermittent, les pulsions populistes des grands partis politiques, de gauche comme de droite, n'y échappent pas toujours.
My dream, it lingered near in the farm. Stéphanie Duncan, le fil de l'histoire sur France Inter.
Peuple de France répugne à l'esclavage et à la servitude, à la discipline du troupeau soumise à la dictature d'un seul qui parle au nom des maîtres capitalistes. Car le fascisme, c'est en effet l'avilissement, l'anéantissement de l'individu. C'est l'impossibilité pour le savoir et le talent de donner leur pleine mesure dans le plein épanouissement de la liberté assurée à chacun et à tous.
Le 17 avril 1936, en pleine campagne électorale, cette campagne qui conduira 2 semaines plus tard à la victoire du Front populaire, Maurice Thorez, le premier secrétaire du Parti communiste français, prononce à la radio un discours qui fera date. D'abord, c'est la première fois qu'un communiste s'exprime au micro de Radio Paris. Ensuite, le message que Thorez adresse ce jour-là aux Français est inhabituel. Il appelle, ni plus ni moins, je cite, « à la réconciliation du peuple de France ». Depuis 2 ans, en effet, le Parti communiste, en accord avec Moscou, s'est engagé dans la voie du Front populaire avec les socialistes et les radicaux pour faire face aux menaces fascistes. Et il multiplie les appels au peuple. Dans son discours, Thorez se réclame de la tradition nationale depuis, je cite, « les fabliaux populaires de notre Moyen-Âge jusqu'à Victor Hugo, Émile Zola et Henri Barbusse ». Désormais, Maurice Thorez n'invoque plus seulement la classe ouvrière, comme le veut la tradition du parti, mais le peuple. Ce discours du 17 avril 1936 est célèbre surtout par sa conclusion, totalement inouïe pour l'époque, où le communiste Thorez, comme il le dit, tend la main non seulement au peuple de gauche, mais aussi, plus surprenant, aux catholiques et aux croix de feu qu'il appelle à voter pour le PCF. Nous te tendons la main, catholiques, ouvriers, employés, nous qui sommes des laïcs, parce que tu es notre frère. Et plus loin, Thorez ajoute, nous te tendons la main, volontaire national, ancien combattant devenu croix de feu, parce que tu es un fils de notre peuple. Face à ce peuple donc très élargi et qu'il espère uni, Thorez désigne l'ennemi qu'il faut désormais combattre, ce qu'il appelle les 200 familles et leurs mercenaires, qui, je cite, « conduisent notre pays à la ruine et à la catastrophe ». Ce discours stupéfiant provoque la colère à droite, le camp où Thorez justement ose aller chercher des voix. Dans le Figaro, François Mauriac dénonce l'hypocrisie du rossignol léniniste, tandis que le républicain national Henri de Kérillis appelle les Français à ne pas tomber dans le piège. 2 semaines plus tard, le Front populaire remporte les élections. Le discours de Thorez y est-il pour quelque chose ?
Tous unis, dit la pancarte. Et tous unis, ils sont et resteront. Portrait de Pierre Bonne, Maurice Thorez, Henri Barbusse, Léon Blum.
Marc Lazard, dans votre livre, vous écrivez que ce discours de la main tendue de Thorez, donc du 17 avril 1936, est l'un des plus marquants et les plus emblématiques de la nouvelle stratégie du Parti communiste français. Est-ce que c'est une stratégie populiste, le Front populaire ?
Non, absolument pas. C'est une stratégie d'unité antifasciste. La gauche considérait que le 6 février 1934, il y avait une menace fasciste et Staline, le chef du Kremlin, en accord avec Maurice Thorez, avait demandé un rassemblement très large parce que l'idée, c'était de lutter contre le fascisme. Dans le cadre de cette unité antifasciste, il y a un changement d'orientation politique et de discours du Parti communiste français. Vous l'avez dit, ce n'est plus simplement la classe ouvrière, le prolétariat, comme on disait aussi beaucoup à l'époque, mais c'est un appel au peuple. Un peuple contre les élites, les 200 familles, avec un slogan qui va avoir une résonance jusqu'à nos jours, faire payer les riches. Donc, ce n'est pas tellement une stratégie qu'ici qu'une forme de style populiste. Mais attention, le populisme au Parti communiste français, c'est un populisme dans les périodes d'unité large. Quand c'est une période de repli, par exemple les années de guerre froide, les années 50, là, le Parti communiste français appelle rarement au peuple. Il appelle à la classe ouvrière. au prolétariat. Lorsqu'il s'agit de stratégies d'unité large, effectivement, il y a une propension au populisme. Mais attention, il est intermittent. Pourquoi j'emploie cet adjectif ? Parce qu'il est contrecarré par deux éléments. D'abord, l'importance du marxisme et donc l'importance, deuxième élément, des classes sociales et de la classe ouvrière. Donc attention, c'est un populisme intermittent, mais par exemple, dans les années 70, Georges Marchais aura un style combinant des formes d'ouvriérisme et de populisme. Je suis sûr que nos auditeurs les plus âgés se souviennent du style de Georges Marchais, à la fois ouvriériste, justement, et populiste.
Marc Lazare, vous parlez dans votre livre d'autres cas en France de populisme intermittent. Vous parlez des maoïstes et du gaullisme. Quel rapport peut-il y avoir entre les maoïstes et le gaullisme ?
Alors, aucun, bien évidemment. Mais aucun. Mais attention, dans le cas des maoïstes, je prends en considération le fait que ce groupement, alors il faut rappeler peut-être ce que c'est maoïste, notamment pour les plus jeunes
France.
Auditeurs. Un certain nombre de militants venus du communisme ont critiqué justement la timidité, le réformisme, le langage de l'époque parlé du révisionnisme du Parti communiste français qui ne serait plus révolutionnaire. Et ils ont regardé du côté de la Chine de Mao. Après 1968, ils vont aller vers une autre orientation qui va être illustrée par un journal qu'ils vont créer qui s'appelle La Cause du Peuple. Les maoïstes vont considérer qu'il faut essayer de parler à la classe ouvrière, mais ils n'y arriveront pas, malgré leur politique dite d'établissement. C'est-à-dire qu'ils envoient des militants, très souvent d'origine bourgeoise, travailler comme ouvriers dans les usines pour essayer de convertir justement les ouvriers. Et ça ne fonctionne pas parce que l'encadrement à l'époque de la CGT du Parti communiste français particulièrement fort. Alors ils vont essayer de contourner cette difficulté en s'adressant justement au reste de la population, au peuple. Et le peuple, encore une fois, en a raison de se révolter, donc on peut aller du côté du peuple. Ils vont être réprimés, et lors justement de la répression contrainte de leur dirigeant, Alain Jespin, il va y avoir toute une propagande autour d'un mot très clair, procès Jespin. Procès du peuple. Comme si Alain Jespin était l'incarnation du peuple. En ce sens-là, il y a eu une propension populiste dans les Mao.
Et chez De Gaulle, alors ?
Oui et non. Et ça, je veux être très clair là-dessus. Oui, il y a un appel au peuple, on le sait, très souvent du côté du général De Gaulle, en particulier en 1946-47, lorsqu'il lance le Rassemblement du Peuple Français. Il y a une critique du régime des partis, celui qu'il déteste, qu'il abhorre, celui de la 4e République. Les partis politiques divisent justement le peuple. Il y a une idée quand même chez De Gaulle d'un peuple un. Il y a même une critique des élites chez lui, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Il considère qu'une partie des élites n'est pas venue le voir à Londres ou ne l'a pas soutenu. Mais en même temps, non, il n'est pas populiste parce que justement, il n'exalte pas le peuple, il ne le valorise pas. Au contraire, il se lamente des divisions de ce qu'il appelle les Gaulois par son langage, évidemment qui n'a rien à voir avec le langage de nombreux dirigeants populistes, par son exigence et par ce qu'il a proposé. Qu'est-ce qu'il a proposé ? Il a proposé avec la constitution de la Ve République en 1958 et l'élection au suffrage universel en 1962 par référendum, d'un côté, la possibilité de donner le pouvoir à un homme qui est élu par le peuple, deuxièmement, un parlementarisme rationalisé et troisièmement, un rapport direct au peuple par l'intermédiaire notamment des référendums, mais qui ne sont pas des référendums plébiscitaires. La preuve, en 1969, il perd le référendum, il démissionne immédiatement. C'est donc un référendum de type personnel. Ça n'a rien à voir avec un référendum de type plébiscitaire.
Merci beaucoup Marc Lazare donc pour cette émission consacrée à l'histoire du populisme. Nous nous arrêterons au général de Gaulle, même si cette histoire est beaucoup plus longue dans votre livre, mais je renvoie à la lecture de votre livre pour en savoir plus sur les populismes contemporains. Pour l'amour du peuple, histoire du populisme en France 19e-21e siècle, édité chez Gallimard dans la collection NRF Essai. À lire également de Pascal Horry, Ce côté obscur du peuple chez Bouquin, et de Bertrand Joly, Aux origines du populisme, Histoire du boulangisme, 1886-1891, aux éditions du CNRS. C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission était réalisée par Claire Destacan, assistée d'Anne-Cécile Perrin, à la technique Théo de Lobadère. Vous avez pu entendre Ne pas regarder en bas de Nous étions une armée et de Patti Smith, People have the power. Des titres choisis par Jean-Baptiste Audibert. Vous pouvez vous abonner au podcast du Fil de l'Histoire sur l'appli Radio France. J'attends vos commentaires sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook. Rendez-vous lundi pour une nouvelle série du Fil de l'Histoire consacrée à la découverte des Gaulois, qu'ils soient ou non nos ancêtres. Connaissons-nous vraiment les Gaulois ? Je recevrai l'historien et archéologue Dominique Garcia.